Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour une nouvelle journée dans le bunker, pour une recommandation de film ou de série, pour occuper nos confinements, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone Guillaume Lascon-Jarias. Donc bonjour Guillaume.
Bonjour Alexandre.
Alors, vous êtes aujourd'hui délégué à l'éducation de défense au ministère de l'Éducation nationale, mais vous êtes aussi chercheur, originellement docteur en histoire moderne, ce qui évidemment est cher à mon cœur, mais vous êtes passé ensuite par le Centre de la doctrine d'emploi des forces, vous êtes passé par l'IRSEM, ainsi que par le Conseil de défense de l'OTAN, vous éloignant donc un peu de votre spécialité première pour vous tourner vers des périodes plus contemporaines. Et vous nous parlez, nous recommandez un film tout à fait inscrit dans la période contemporaine, lui, qui est disponible normalement sur Amazon Prime, qui est le Stalingrad, Enemy at the Gates en anglais, de Jean-Jacques Hano, sorti en 2001 avec Jude Law, Joseph Fiennes, Rachel Weisz, et même un très bon Ed Harris en sniper aristocrate allemand. Alors, c'est un film que moi j'aime beaucoup, je pense qu'on pourrait même soutenir que c'est un des tout meilleurs rôles de Jude Law. Et c'est l'époque où Jean-Jacques Hano faisait encore de très bons films. C'est évidemment pas tout à fait au niveau de son chef-d'œuvre qu'est Le Nom de la Rose, mais ce n'est pas encore non plus la pente descendante qu'il y aura ensuite avec ses films Qatari puis Chinois, Or Noir, Deux Frères, etc., etc. Et c'est donc un film de sniper, et même un très bon film de sniper, qui suit la figure historique de Vassili Zaïtsev, qui est un jeune berger de l'Oural, qui révèle son talent de sniper en pleine bataille de Stalingrad en 1942, et qui devient le meilleur sniper de l'armée rouge, avec plus de 200 éliminations sur un terrain qui, il faut bien le dire, se prête particulièrement à l'action des tireurs d'élite, puisque la ville devient globalement un tas de décombres, où il est assez facile de circuler et de se cacher, et on sait que, historiquement, c'est totalement avéré que l'action de ces snipers a très fortement pesé sur l'armée allemande, et notamment sur le moral des troupes. Alors dites-nous, Guillaume, puisqu'on est d'accord sur le fait que ce film vaut la peine d'être vu et revu, dites-nous ce qui vous y intéresse et pourquoi vous nous le recommandez au creux de nos confinements.
Alors, je pense que d'abord, c'est une myriade de bons acteurs, et ça fait beaucoup pour donner un peu de chair à ce récit. Ensuite, je pense que ce qu'il faut voir dans Stalingrad, dans ce film-là, c'est une sorte de mise en abîme de cet affrontement gigantesque, le front de l'Est, avec un affrontement d'abord, une sorte de duel de deux systèmes politiques dans une sorte de guerre à mort, de deux armées autour donc d'une ville au statut, au nom particulier, hein, Stalingrad, et puis de deux hommes.
Oui, on va dire, soit dit en passant, qu'il y a une scène très intéressante, enfin qui permet de se remémorer, où on voit Khrouchtchev qui se balade à Stalingrad, qui est devant ses officiers, et qui dit, mais c'est pas Kiev, c'est pas Minsk, c'est Stalingrad. Si Stalingrad tombe, tout tombe.
My name is Nikita Sergeyevich Khrushchev. I've come to take things in hand here. This city is not Kursk, nor is it Kiev, nor Minsk. This city is Stalingrad. Stalingrad! This city bears the name of the boss. It's more than a city, it's a symbol. If the Germans capture this city, the entire country will collapse. Now, I want our boys to raise their heads.
I want them to act like they have balls! I want them to stop shitting their pants!
Et oui, voilà, le nom est lui-même déjà porteur de la tension presque palpable qu'il y a autour de cet affrontement. Et puis finalement, ces deux hommes que tout pourrait opposer. Hein. Alors, il y a le jeune berger de l'Oural avec une scène introductive où on le voit justement à la chasse avec son grand-père, une très très belle scène. Et puis, une sorte de fondue enchaînée et on arrive sur le passage de la Volga avec, quelques temps après, donc l'aristocrate, lui, venu de Berlin, manucuré, qui fume des cigarettes à bout doré, ce qu'il perdra d'ailleurs, et comme quoi fumais-tu. Et donc, ce duel-là est particulièrement intéressant parce que, au-delà de cet affrontement système politique, armée et homme, c'est vraiment un film qui est intéressant sur comment est-ce qu'on crée un héros, comment est-ce que la propagande joue un rôle essentiel autour d'un personnage clé, le sniper, justement.
Ouais, alors j'allais dire, ce qui est marrant, c'est que c'est un film américain qui reprend entièrement un mythe de la propagande soviétique.
Tout à fait.
Qu'est la figure de Zaïtsev. Alors même si, bon, d'abord il a existé, et puis le film montre aussi l'envers, évidemment, de la construction de ce mythe, c'est une partie du film, mais c'est entièrement un mythe, et même cette histoire de duel, qui pour autant que je sache n'a jamais été vraiment vérifiée, c'est aussi quelque chose, enfin, le film l'embrasse complètement, alors que c'est un pur film hollywoodien, certes on n'est plus en période de guerre froide en 2001, mais quand même, embrasse complètement l'histoire racontée par la propagande soviétique pendant des décennies, quoi.
Alors moi, j'ai une difficulté avec ce film-là, parce que je l'ai revu pour en discuter, et je trouve qu'il y a trois distorsions. La première, il y a une distorsion sur la véracité par rapport à la vérité. C'est-à-dire que ça ressemble vraiment à quelque chose qu'on pourrait s'imaginer. C'est un peu le syndrome, on va dire, post-soldat Ryan. Il faut faire à grand spectacle, il faut rendre visible à coup d'effets spéciaux, et le passage de la Volga est à ce titre-là la scène pour moi emblématique. Encore plus peut-être même que les combats de sniper.
Alors le passage de la Volga, on va dire juste au départ, c'est voilà. Effectivement les soldats de l'armée rouge débarquent en train. Pourquoi ? Parce que Stalingrad, son intérêt stratégique, c'est que c'est une ville-pont sur la Volga. Et ils arrivent, ils doivent traverser la Volga pour entrer vraiment dans le cœur de la ville sur le champ de bataille. Et là, bon, bah, il y a des bombardements, des avions qui viennent bombarder les bateaux. Et effectivement, c'est une scène qui, forcément, fait un peu penser au soldat Ryan qui n'a eu lieu que 3 ans auparavant.
Tout à fait. Et ce qui est très intéressant, c'est donc que là, finalement, on a une sorte de mise en perspective de ce combat, finalement, à mort, où. Un simple soldat, déjà, a une espérance de vie très limitée et cette première, comment dire, confrontation avec une sorte de brutalité extrême, elle est intéressante parce que la figure même de Zaïtsev semble totalement perdue. D'autant plus que s'ensuit une montée à l'assaut immédiate, sans préparation, avec un soldat qui prend un fusil, un autre qui prend les munitions et en avant. Et là donc cette question de l'affrontement, du choc, de la volonté finalement du peuple de se projeter poitrine en avant contre l'armée allemande qui a son pic d'efficacité, c'est quelque chose qui paradoxalement revend le mythe de l'armée rouge. En même temps, c'est une armée rouge extrêmement brutale, qui ne respecte pas les soldats, avec des commissaires, avec les bataillons du NKVD qui tirent sur les fuyards. Bref, on est vraiment immergé dans quelque chose qui est extrêmement brutal. Le deuxième point, c'est la confusion. Moi, ce film-là, il me parle parce que on ne sait pas finalement ce qui est en train de se passer. Et c'est d'autant plus confus que il n'y a pas de ligne de front. On est dans quelque chose qui est absolument mouvant, et c'est là où justement les personnages, les snipers, jouent un rôle essentiel, parce que comme il n'y a pas de ligne de front stable, eh bien les snipers sont dessus, dessous, derrière, et jouent un rôle finalement extraordinairement important, puisque c'est eux qui vont frapper, et pas seulement les esprits, ils vont aussi frapper les corps et jouer un rôle qui est le troisième, qui est le rôle de mise en valeur de la, par la propagande de ces héros d'un nouveau genre, qui sont des héros finalement, qui sont des individus, alors qu'on parle finalement d'unité, de masse, de division et de volume extraordinairement important. Donc c'est à mon avis ce troisième sens qui me paraît important.
Ah mais c'est très vrai, et puis c'est quelque chose, bon c'est un peu un lieu commun qu'on a beaucoup dit sur le nazisme, le stalinisme, disons les totalitarismes, que c'est l'ère des masses, que c'est une idéologie des masses et de l'absence d'individualité. Et c'est pas totalement faux, mais de fait, dans la guerre, et spécialement dans le film de guerre, il faut individualiser, il faut se trouver des héros, et c'est d'ailleurs un des enjeux du film, c'est le fait de faire accepter qu'il faut un héros, qu'il faut personnaliser, et il faut trouver et créer une figure autour de laquelle les hommes peuvent se retrouver, disons, inspirés, quoi.
Alors ça, c'est à mon avis un des points justement du film, c'est-à-dire que on voit bien effectivement. Alors Jude Law, en plus, mon épouse dirait que il a jamais été aussi beau que dans ce film. Et effectivement, c'est un peu le type qui se découvre.
J'invite tout le monde d'ailleurs à aller voir des vraies photos de Vassili Zaïtsev. il est pas du tout aussi beau gosse que Jude Law. Il faut le préciser.
Non, c'est vraiment quelqu'un qui a une figure qui a aussi une gueule. Hein. Vladimir Zaïtsev a une tête. Ce qui est assez intéressant, c'est que le film, là encore, romance, puisqu'on a l'impression que c'est le type qui a été jeté dans le maelstrom, qui va se révéler et qui va prendre un fusil et commencer à faire son travail de sniper, de tireur d'élite. En revanche, le vrai Vassili Zaïtsev, quand il arrive à Stalingrad, il est déjà sous-lieutenant. Il a déjà une expérience militaire, et de formation, il est secrétaire. Et donc, il va se révéler lui aussi. Finalement, c'est un des points qu'il a en commun avec le personnage qu'incarne Jude Law, même si c'est censé être lui. Mais ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est de se dire que derrière, c'est la construction du mythe Zaïtsev, elle se fait en fait par un personnage qui est incarné par Joseph Fiennes, le commissaire politique Danilov, et qui justement va présenter à Khrouchtchev en disant ben voilà, il nous faut des héros, il nous faut des personnes, il nous faut des personnes qui vont nous motiver, qui vont motiver les troupes, et pas simplement la peur, et pas simplement l'angoisse d'être fusillé. Et là, ça renvoie là encore une sorte de critique en filigrane du régime soviétique. Et c'est pour ça que le film, à mon avis, est beaucoup plus complexe sur on apporte à la fois de l'eau au moulin du mythe de la Grande Guerre patriotique. En même temps, il y a des vraies critiques du système totalitaire, et notamment le rôle du commissaire politique Danilov par rapport à Khrouchtchev, qui avait passé pour une espèce de brute en oubliant.
Ouais, mais ça, c'est pas totalement faux, historiquement, que Khrouchtchev n'était pas la personne. Enfin, bon, peu importe.
Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce commissaire politique, finalement, il incarne aussi justement l'opposition à l'ordre numéro 227, qui est très célèbre, parce que finalement, c'est l'ordre dit aussi des commissaires politiques, qui en fait date de juillet 42 et qui a été popularisé par le plus un pas en arrière. C'est-à-dire que justement, on forme un dernier pas, et Stalingrad est ce dernier pas. On est dos effectivement au fleuve, et on ne peut plus reculer. Et donc le héros finalement participe de cette tâche qui est de repousser les Allemands et donc de le faire sur un terrain, comme vous l'avez précisé, qui est très particulier, qui est la ville de Stalingrad, mais surtout un espace qui est totalement remodelé, transformé, la guerre urbaine, des petits groupes, un environnement où on devine le passage de civils. Il y a quelques très belles scènes avec les civils qui sont intéressantes. Et puis, l'ensemble donnant lieu à ce que les Allemands appellent eux-mêmes la guerre des rats, la Rattenkrieg de Stalingrad.
Ouais, c'est intéressant. Alors évidemment, on va dire, c'est pas non plus totalement inédit pour le régime soviétique de personnaliser quelqu'un comme ça. C'est évidemment... Enfin, c'est le mythe de Stakhanov aussi, c'est quelque chose qui a déjà existé par ailleurs et qui fait partie, disons, de cette dialectique entre le collectif et le grand héros patriotique. Mmh. Mais Bon, c'est par ailleurs intéressant. Le sniper, c'est vraiment. Alors, on en a déjà parlé avec Michel Goya. Je sais pas dans quel ordre on va réussir à. Je vais les diffuser, mais c'est le sniper, c'est quelque chose qui permet d'individualiser vraiment une guerre collective, quoi.
Tout à fait. Et là, Zaïtsev, il est assez intéressant parce que justement, et tout le film repose là-dessus, c'est l'opposition entre lui et le fameux Major Koenig, donc, qu'on envoie de Berlin et qui est incarné par Ed Harris. Ed Harris qui est vraiment formidable dans son wagon grand luxe, qui arrive à Stalingrad, qui se fait nettoyer les bottes, bref, qui a le... tout ce que l'on peut imaginer, la mort, le dédain et l'efficacité du professionnel, parce que derrière c'est aussi une machine de guerre, une machine de mort, mais qui est en réalité lui aussi une construction, encore plus une construction que Zaïtsev, puisque le Major Koenig en fait n'a jamais existé.
Ouais. Enfin, par ailleurs, on peut peut-être légèrement décentrer, dire, en fait, c'est pas la première fois que je dis dans le podcast que moi j'aime beaucoup ce film, et à chaque fois je me fais tomber dessus sur Twitter, notamment par des gens qui me disent que c'est pas terrible, que bon, Jean-Jacques Hano, etc., ça c'est un argument, mais surtout que le film qu'il faut voir absolument, c'est l'autre film sur Stalingrad, réalisé en 1993 par Joseph Vilsmaier.
Voilà.
Alors, j'avoue, je ne l'ai toujours pas vu, je n'ai pas réussi à le trouver en ligne à la demande, mais je crois que c'est votre cas, et ce n'est pas inintéressant, parce qu'il me semble justement que c'est complètement différent, à la fois filmé au contraire du côté allemand, et puis filmé au contraire avec un angle vraiment auprès des hommes, et disons des côtés les plus sales et les plus désespérants, disons, de cette bataille qui est Stalingrad. Il faut rappeler quand même que c'est un abattoir, quoi.
Alors, ce qui est intéressant, en fait, quand on compare, c'est que le film de Vilsmaier, qui date de 93, déjà, c'est une des premières fois où les Allemands se risquent sur ce chemin de faire un film sur ce qui est le tournant de la guerre, ou ce qui est souvent considéré comme étant un des tournants de la guerre et de la défaite de l'Allemagne nazie. Mais Vilsmaier a ce qui est intéressant, c'est que ces héros, en fait, sont des anti-héros. C'est-à-dire que en fait, ça tourne autour d'une section. Hein. Par certains côtés, il y a des relents de Croix de Fer, de Peckinpah. Donc, je sais que certains auditeurs auront écouté le podcast sur.
C'était le tout premier qu'on a fait. On a inauguré le format avec Croix de Fer. Et oui, effectivement, c'est intéressant parce que déjà, ce qu'on disait. Là-dedans, dans ce premier podcast avec Simon Rio, c'est que c'est pas si fréquent, mine de rien, les films sur le front de l'Est, c'est encore moins fréquent les films sur ce grand truc qui a été Stalingrad, et que du coup, c'est... Enfin bon, chaque film là-dessus est précieux, parce que il faut rappeler et remettre en avant l'importance de cet événement quand même.
Alors ce qui est justement intéressant chez Vilsmaier, c'est que Vilsmaier lui aussi décentre, donc c'est effectivement cette unité, on va dire, un petit peu de réprouvé ou une sorte de bataillon disciplinaire qui va être justement sorti de Stalingrad pour justement assurer les protections de ce qu'il y a autour, là où justement les soviétiques ont toujours maintenu des têtes de pont à partir desquelles vont se lancer les grandes opérations au mois de novembre, Uranus et Saturne, qui vont en fait couper la ville de Stalingrad du reste du monde et donner lieu à cette tragédie qu'on voit pas du tout hein, dans le film de Jean-Jacques Hano, parce que sans doute qu'il n'y a pas la même dimension que celle de Vilsmaier. Vilsmaier, il veut montrer finalement l'encerclement, le fait de créer ce fameux chaudron de Stalingrad, avec dans ce cadre-là une sorte de côté de combat désespéré, notamment chez Vilsmaier, il y a une scène qui est absolument bouleversante, c'est la manière dont ces unités qui sont à peine enterrées dans la neige et sans aucune protection voient déboucher sur elles une attaque de T-34, et c'est véritablement, on a l'impression que les chars sortent de la brume, et c'est une véritable terreur, et on peut imaginer ce qu'est la terreur du fantassin en voyant arriver justement ces chars qui ne s'arrêtent pas, en fait.
Ben, très bien, donc On recommande fortement le Stalingrad de Jean-Jacques Hano, mais aussi vous recommandez celui de Joseph Vilsmaier, qui va être un peu plus difficile à se procurer si vous n'avez pas déjà le DVD dans votre bibliothèque.
Effectivement, il est difficile à avoir.
Merci beaucoup, Guillaume Lasconjarias.
Merci beaucoup, Alexandre.
Et à demain, tout le monde.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.